Vous êtes sur RTL.
Nous aurons la parole sur RTL.
Et à 13h02, nous sommes donc avec Salim, qui peut-être avait le bon jugement. Bonjour Salim. Pas de divorce, mais une dispute qui dure peut-être entre la police et la population.
Oh, c'est une dispute qui va peut-être un peu durer, mais je pense que on peut pas vivre sans les policiers. On peut pas vivre sans un État où il y a la police. Enfin, la police, c'est la loi et l'ordre. Vous savez, moi je suis musulman et il y a quelque temps, quand il y a eu les attentats, je vous avais même appelé en disant voilà, il faut arrêter les amalgames avec ce qui se passe, etc. C'est un peu des. Bah, bien sûr, c'est pas aussi grave que les attentats, mais c'est quand même. C'est quand même dommage ce qui s'est passé, mais il faut pas mettre toute la police dans le même sac. Voilà, c'est pas parce qu'il y a des éléments de la police qui ont mal fait, qui vont être jugés, etc., qu'on va dire aujourd'hui la police, toute la police, elle est pourrie, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est pas mon cas, mais tout le monde est en colère un peu contre la police, mais voilà, c'est comme une
forme. C'est de tout le monde d'ailleurs, c'est intéressant ce que vous dites, parce que on n'arrive pas à savoir, et lorsqu'il y a une enquête, par exemple, les gens, manifestement, ont une image positive de la police ces derniers jours, jusqu'à vendredi dernier. Mais en revanche, la représentation médiatique, j'ai envie de dire, donne une image un poil déformée, puisqu'on ne parle que des trains qui n'arrivent pas à l'heure, et en l'occurrence, plutôt des bavures. On ne parle pas, je crois qu'il y a 5 millions d'interventions policières par an, on ne parle pas des opérations qui marchent bien, entre guillemets.
Voilà, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on fait le focus, tout le monde se focus que sur ça et dit vous avez vu la police à la télé, elle est pourrie, mais pareil, comme disait le ministre de l'Intérieur, il y a plus de 3 millions d'interventions par an, il y a que 9 000 qui sont signalées. Donc voilà, donc pour moi il faut cesser cet amalgame et voilà, on a besoin des policiers. Et vous savez, il y a quelques jours vous avez parlé d'un contrôle routier que vous avez subi, etc., et j'ai été très sensible à ça, parce qu'effectivement si les gens ils m'écoutent, quand vous faites arrêter par la police, faut pas faire le malin. On connaît. Moi, je suis cadre, etc. Je sais que je suis quelqu'un de sérieux. Mais le policier qui m'arrête, il le sait pas. Donc, pourquoi je vais m'énerver en disant ouais, vous m'arrêtez, n'importe quoi. Je me suis fait arrêter plein de fois. Ça s'est super bien passé. Pourquoi? Parce que quand le policier me disait donnez-moi vos justificatifs, etc. Bah, soit je l'ai, soit je l'ai pas. Voilà, je prends une amende et puis basta. Il fait son job et basta. Donc, je pense que pour moi, c'est temporaire, parce qu'on ne pourra pas survivre sans la police. Tout citoyen, demain, s'il se fait cambrioler, s'il se fait agresser, il va appeler qui? Il va pas appeler son voisin, on va appeler la police. Donc on aura toujours besoin de la police. Et comment être fâché contre un corps de métier qui est vital? On ne peut pas survivre sans la police. Enfin, c'est la loi, c'est l'ordre, c'est la police qui nous protège. Moi, j'habite à Bois d'Arcy. Demain, on dit qu'il n'y a plus de policiers, il n'y a plus de commissariat. Ben, je vais avoir peur. Je vais avoir très, très peur.
Vous avez raison, Salim, mais là aussi où vous avez raison, c'est qu'il faudrait peut-être des campagnes de publicité pour donner, une bonne image, ou en tout cas une sorte de savoir-faire lorsqu'on est interrogé ou lorsqu'on est interpellé par la police. C'est-à-dire que je suis persuadé qu'il faut aider les policiers. Donc, on ferait des petits films pour dire, quand vous êtes interpellé, voilà comment il faut plutôt réagir, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire, etc. Et je pense que ça pourrait marquer, effectivement. C'est ce que vous dites, il ne faut pas faire le malin. Faut pas faire le malin là pendant les 3-4 minutes quand t'es interpellé par la police, bah tu tiens.
Je me suis arrêté pendant le premier confinement. J'avais emmené ma petite fille à faire un vaccin. Il m'avait arrêté dans un barrage. J'avais pas de justificatif. Je me suis dit, oh, la petite, j'ai la flemme de le faire. Le policier m'a dit, monsieur, vous avez quand même un portable. Je lui ai dit, franchement, avec la petite. Je lui ai dit, vous savez, monsieur, faites votre travail. Faites ce que vous avez à faire. Il était même gêné. Et à la fin, il m'a paniqué PV.
C'est tellement évident ce que vous dites. C'est-à-dire que si, effectivement, tu attaques cela en les prenant pour des imbéciles, en les méprisant, en ironisant, etc., ça se passe mal. Mais si tu es dans un rapport courtois, apaisé, il y a des chances que ça se passe mieux.
Pourtant, je m'appelle Salim, je suis algérien.
Vous appelez Salim, j'espère que vous seriez moins bien traité par les policiers.
Au contraire, je suis très très. Moi, je parle personnellement, je suis très bien. Une fois, je me suis pareil, fait arrêter il y a très longtemps, plus il y a 12 ans de ça. J'avais une voiture, j'avais oublié les papiers, j'avais aucun papier sur moi. je peux vous jurer, quand je me suis fait arrêter à minuit, j'ai pas fait le malin et à la fin, les policiers m'ont dit, bah, vous laissez votre voiture, vous rentrez chez vous et demain matin, vous passez au commissariat pour récupérer les clés ou quelque chose comme ça. Je vous jure que j'ai fermé ma gueule en me disant, vous avez raison, c'est Bibi qui a tort. Voilà. Donc, à un certain moment, voilà, c'est comme ça. Et ça fait 20, ça fait 18 ans que je vis en France et j'ai jamais eu de soucis parce que quand j'ai tort, bah, j'ai tort et puis, bah, ça, faites votre travail. C'est ce que j'avais dit au monsieur.
Non, mais c'est une bonne, faites votre travail. Je trouve que ça peut être une bonne, effectivement, phrase à mettre dans ce petit clip.
Que vous avez fait à faire, monsieur,
faites qu'on pourrait
travail.
Faire.
Et à la fin, il était tellement gêné qu'il m'a pas mis mon PV en me disant, on l'a rentré chez vous, mais la prochaine fois, et votre justificatif. Voilà. Et je l'ai remercié et je suis rentré.
Merci, voilà. Salim, en tout cas, de cette première intervention. On pourra parler aujourd'hui d'autres sujets, notamment il y a la magie de Noël et je pense que Grégory.
Ah oui, la magie de Noël.
Ça vous plaît la magie de Noël ?
Ah ben, on est musulmans en pratiquant, mais on a installé l'arbre de Noël au petit dimanche. Elles étaient toutes contentes et tout. Et franchement, c'est pour les enfants, c'est génial la magie de Noël.
Faut-il rétablir le service militaire ? Ce sera une autre question. Et puis, si vous voulez parler d'Anne Sylvestre, appelez-nous, hein, bien sûr, Anne Sylvestre. Et puis, si vous voulez parler des derniers aventuriers, peut-être modernes, que sont les navigateurs, s'ils vous épatent, s'ils vous fascinent, si vous avez envie de leur rendre hommage, eh bien, n'hésitez pas, le 32. De 10. Greg Caradoni, les chansons de Noël, ce sera tout à l'heure.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Nous allons être avec Cédric qui est chef d'entreprise et nous sommes sur ce thème de la police. C'est vrai qu'hier on en a beaucoup parlé. On pourrait également évoquer ce qu'a dit Gérald Darmanin, les 7 péchés capitaux de la police. Premier péché, la formation qui n'est pas assez soutenue, l'encadrement, des moyens supplémentaires, l'IGPN qu'il faudrait peut-être réformer, la sous-dimension des effectifs, le lien avec la population. Jamais un ministre de l'Intérieur n'avait eu un constat aussi sévère sur la police aujourd'hui. Et d'une certaine manière, il jette une pierre dans le jardin de tous ceux qui nous ont gouvernés depuis 30 ou 40 ans pour constater une sorte d'échec de la police aujourd'hui. Bonjour Cédric.
Bonjour Pascal. Alors Gérald Darmanin, il est bien gentil, il a dit ça, c'est bien, mais à côté de ça, c'est lui qui jette la police en pâture avec sa fameuse loi. Donc bref, ça reste
c'est-à-dire...
de la politique. Eh ben, c'est-à-dire qu'il fait passer les policiers pour des gens qui sont qui passeraient leurs droits, en fait, vous voyez, pour les passe-droits. C'est-à-dire qu'il vient de critiquer ce qui allait pas dans la police, et à côté de ça, il fait sa loi avec le fameux article 24. C'est pas lui qui est en première ligne, hein. C'est les policiers. Ça veut dire que ça va permettre aux gens d'aller dire tout et n'importe quoi, et puis on pourra plus se défendre parce qu'il y aura plus de vidéos. Enfin, bref, ça va devenir du n'importe quoi.
Donc,
ça
veut dire. Je comprends pas tout à fait le fil du raisonnement, Cédric.
Eh ben, en réalité, il dit il y a ça qui va pas dans la police, dans les 7 péchés, etc. Mmh. Et à côté de ça, il promulgue une loi qui est le fameux article 24. Qui fait qu'on peut plus filmer les policiers.
Ben si, on pourra toujours filmer les policiers. Enfin, je le dis tous les jours, je veux bien relire encore l'article 24. On pourra filmer les policiers. Simplement, on peut pas diffuser des images qui porteraient atteinte à l'intégrité physique ou psychique du policier ou d'un fonctionnaire de la police nationale.
Donc, oui, ben non.
Mais on peut filmer.
Donc on peut plus diffuser d'images.
Si, mais bien sûr que si, on peut les diffuser. On peut les diffuser.
C'est trop tournois, cet article.
Mais alors moi je suis pas tout à fait d'accord avec vous, puisque on peut diffuser une image, sauf si elle porte atteinte à son intégrité physique ou psychique, si l'image du visage ou tout autre élément d'identification d'un fonctionnaire national, lorsqu'il s'agit de qu'il est en opération de police.
Oui, de toute façon, cette loi, j'ai bien compris. Puis de toute manière, je pense qu'elle ira pas au bout.
Mais non, mais ça,
c'est même pas à la limite. C'est même pas pour ça au départ que j'appelais. Hein. C'est surtout pour dire. Salim avait raison. On fait trop d'amalgame. Ce qui serait bien pour la police, enfin pour moi, le plus gros problème dans toute cette histoire, c'est les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux et c'est les médias. C'est-à-dire que on passe notre temps à diffuser des vidéos qui desservent la police et la gendarmerie. Que ce soit les réseaux sociaux ou les médias. Là, on a fait un exemple. Alors, ce qui s'est passé avec le producteur, c'est absolument... c'est intolérable. Là, il n'y a pas de doute là-dessus. À côté de ça, on surenchérit, ils ont été mis en examen, et tatati, et tatata. Et derrière, tous ceux qui ont jeté des pavés sur la police, ils ont été mis en examen, ceux-là. Vous voyez, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on décrédibilise la police. On décrédibilise la police et les réseaux sociaux, pour moi, sont responsables. Les médias sont responsables parce qu'à aucun moment on va parler des gendarmes et des policiers qui font des belles choses tous les jours. Dans les journaux régionaux, on a vu, j'ai vu de mon côté des gendarmes qui sont venus en aide à un père qui avait perdu sa fille, sa mère, sa femme, pour l'aider, etc., pour s'en sortir. Pas un média n'en parle, pas une vidéo sur les réseaux sociaux, rien. Ça veut dire que, faire aimer la police et la gendarmerie, ça commence déjà par là. Montrer que c'est autre chose que ce qu'on voit à la télé et sur les réseaux sociaux. C'est pas des gens qui tapent tout le monde. Des abrutis, il y en a dans tous les corps de métier. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus.
Ben merci Cédric. Merci, pour les policiers qui vous écoutent. Et puis en revanche, tout le monde ne pense peut-être pas comme vous. Et notamment Benoît qui trouve aujourd'hui que c'est tendu entre la police et les habitants, entre la police et la population. Benoît qui habite Guingamp, bonjour.
Bonjour Monsieur Pro.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes un ancien gilet jaune. Ça veut dire quoi, ancien gilet jaune?
Alors je ne le suis plus physiquement, je le suis dans le cœur et dans la tête, mais je ne le suis plus physiquement, c'est-à-dire que je ne participe plus forcément aux manifestations et il y a des choses et à des actions qui pourraient qui m'emmèneraient dans la rue ou autre chose, voilà. Mais je le reste dans la tête, dans le corps et dans le cœur, pardon.
Bon, le rapport en fait, que vous avez personnellement avec la police, vous
le... En fait, c'est ça que moi je voulais réagir, oui, par rapport à ça. Déjà, je pense que vous avez dit pas mal de choses que je voulais dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'occupe beaucoup plus du mauvais que du bon. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup plus souvent des trains qui n'arrivent pas à l'heure que ceux qui arrivent à l'heure. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que depuis le début des Gilets jaunes, on a pu voir quand même quelque chose qui a été assez important. C'est l'évolution de la réaction des forces de l'ordre et de ceux qui sont responsables du maintien de l'ordre. Et j'insiste sur le fait du maintien de l'ordre. C'est-à-dire qu'au tout début, sur les premières manifestations, il était très simple d'avoir, de communiquer, de parler avec eux. Il était très facile d'échanger, de s'arrêter, de discuter avec nous. Voilà, et on a vu très très rapidement quelque chose qui a évolué dans des réactions fortes, physiques, et dans des combats, on peut le dire, combats de rue, on peut vraiment aller jusque-là. Et ça, l'évolution de cette violence policière, entre guillemets, j'aime pas trop dire ça, mais l'évolution de cette violence policière, elle s'est vue aussi avec l'évolution de la violence des réactions d'une partie, et je dis bien d'une partie, des Gilets jaunes, qu'on pourrait appeler Black Bloc ou autre. Voilà, ça c'est la deuxième chose. Et ça a été proportionnel jusqu'à il y a encore samedi dernier où il y avait beaucoup de gilets jaunes qui étaient présents et beaucoup d'autres corps de métier qui étaient présents. Donc ça c'est une certitude. Donc maintenant aller dire que le lien est rompu entre la population et les policiers, c'est faux, et ça encore une fois on l'oublie trop vite. C'est-à-dire que rappelez-vous lors des attentats de Charlie Hebdo, il y avait des milliers et des dizaines de milliers et voire des centaines de milliers de personnes qui étaient dans la rue pour applaudir les policiers et les forces de l'ordre.
Je suis d'accord, mais ça c'était avant, comme dit l'autre.
Bah ouais, c'était avant. Mais ça, il y a des choses qui se, comme l'auditeur qui était juste avant, il le disait très très bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gendarmes et des policiers qui font de très belles choses. Ils font de très très belles choses, oui. Et on n'entend jamais parler. Et dernière chose pour agir là-dessus sur la vidéo, là où je ne suis pas d'accord avec l'auditeur qui est passé avant, on dit les vidéos sur les réseaux sociaux, c'est dangereux. Alors, c'est pas les vidéos en elles-mêmes qui sont dangereuses, c'est juste qu'on ne montre pas la totalité de la vidéo. Parce qu'il y a un petit dessin qui est paru sur les réseaux sociaux ce week-end et qui m'a beaucoup plu, où on montrait un policier qui suivait, ou un CRS qui courait après un manifestant. Et on ne montre pas l'image avant. Qu'est-ce qui s'est passé avant? C'est peut-être ça. C'est peut-être aussi que ce manifestant-là, il a balancé des pavés sur les forces de l'ordre et qu'à un moment donné, il y a une réaction qui doit être proportionnée. Et la réaction, elle est proportionnée quand... Alors, je valide pas les violences, mais la réaction doit être proportionnée. C'est tout. Donc, pour moi, il n'y a pas de divorce entre le peuple français et les forces de l'ordre.
Eh ben, merci Benoît. Merci beaucoup. Et nous continuons la discussion après une pause. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Êtes-vous sensible à la magie de Noël? C'est un de nos thèmes. Est-ce qu'il faut rétablir le service militaire obligatoire? Pour les femmes également. C'est l'idée de Jean-Luc Mélenchon. Y a-t-il un divorce entre la police et la population? Les navigateurs et Anne Sylvestre. Voici tous nos sujets.
Le menu est très large. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et le sujet qui vous fait réagir pour le moment sur nos réseaux sociaux est cette question. Y a-t-il un divorce entre la police et la population? Eh bien, il n'y en a pas, réagit José. J'ai confiance. Et franchement, quand je sors le soir, je préfère croiser des policiers qu'une bande d'individus. Même avis pour Mireille. Je pense que nous faisons partie de la majorité des Français. Un commentaire. Alors que ne partage pas Gilbert, le divorce est prononcé depuis longtemps, des policiers ont été couverts par leur hiérarchie. Certains n'avaient plus de limites. Trop de blabla pour tirer depuis longtemps. J'attends plus de fermeté du ministre de l'Intérieur, de la rigueur, des actes forts. Remettons un peu d'ordre et que chacun reste à sa place. Et les politiques sont responsables de cette situation, conclut Gabriel sur nos réseaux sociaux.
Merci, à tout de suite, Laurent. Majid est là. Bonjour Majid, vous êtes étudiant en histoire.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Et merci d'être avec nous. Quel est votre sentiment et votre rapport à la police nationale?
Bah écoutez, je vais essayer d'être juste dans mon intervention. Plutôt que de parler de mon rapport, j'aimerais plutôt prendre de la hauteur plutôt que de participer à la fracture, parce que maintenant on sent qu'il y a une fracture. On a deux camps. On a des camps qui se forment, du moins des pro-police, des anti-police. Et donc je vais essayer d'épargner personne, quitte à me mettre des personnes à dos. Donc les violences qu'on a vues ces derniers jours, dans l'affaire Michel Zicler, c'est des violences inadmissibles, mais qui sont à mettre au fait d'une minorité parmi la police. On ne le rappellera jamais assez, les auditeurs avant moi l'ont rappelé, mais vraiment on a affaire à une minorité. Maintenant, le problème est-ce qu'il creuse le fossé. Je pense que c'est le fait, en fait, la police est censée être le bras armé de la justice. Et le problème, c'est que la justice est devenue trop laxiste, aussi bien d'un côté comme de l'autre. D'un côté, on a des policiers qui se comportent comme des voyous, certains policiers, une minorité, qui se comportent comme des voyous et on ne voit pas de sanctions pénales. On a des sanctions administratives, etc., de la hiérarchie, mais on n'a pas de sanctions pénales et on a l'impression d'une impunité générale, en fait. Et de l'autre côté, je peux également comprendre les policiers qui se retrouvent face on a une société qui est de plus en plus violente, et on a des policiers qui se retrouvent face à des individus qui vont commettre des incivilités ou des actes plus graves ou même des crimes, et qui se retrouvent dehors très facilement, très rapidement, et du coup qui recommencent. Et du coup, il recommence. Et donc, je comprends aussi que
j'entends bien, Majid, mais qu'est-ce que vous voulez dire?
De frustration.
Qu'est-ce que vous voulez dire sur notre situation aujourd'hui? C'est qu'il faudrait être plus sévère, sans doute, une réponse pénale plus forte?
Oui, et d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire que quand on a des policiers qui se comportent mal, je pense qu'il devrait y avoir une réponse pénale plus forte. On a connu, par exemple, dans les années 70, 80, des policiers qui glissaient du mauvais côté de la loi et qui étaient...
Mais là, on est tous d'accord, Majid. Là, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion, on est tous d'accord qu'il faut sanctionner la police et les bavures.
Ah, c'est sûr, mais dans les faits, on ne le voit pas. Dans les faits, on ne le voit pas.
Bah, dans les faits, c'est là que. C'est ce que rappelait le ministre Darmanin. Aucun corps de métier n'est autant surveillé, sanctionné, contrôlé que la police. Il y a plus de sanctions, par exemple, dans la police que chez les journalistes. Un journaliste peut dire une bêtise, il n'est pas sanctionné. Un policier fait, il est contrôlé, il fait une bêtise, et quoi, le mot n'est pas adapté d'ailleurs avec bêtise, il fait quelque chose en dehors de la loi, il est sanctionné. Et il y a 9000 cas par an, il y a 5 millions je crois d'interventions, et il y a près de 9000 cas, alors c'est les statistiques, de policiers qui peuvent être sanctionnés.
C'est peut-être le fait que la réponse est peut-être moins médiatisée. Que la réponse va être moins médiatisée que la faute elle-même. Et ça, c'est aussi dû aux réseaux sociaux. Hein. Je veux dire, on a une société maintenant où tout se sait très vite. L'affaire Michel Zicler, elle aurait très bien pu passer sous les radars sans les réseaux sociaux. Et en face, on a vraiment une culture de la victimisation. C'est-à-dire que,
ça, c'est vrai.
Encore une fois, si je reviens dans les années 70-80, on avait des voyous qui savaient qu'ils étaient des voyous. C'est-à-dire que, voilà, ils étaient beaux joueurs, on va dire. C'est-à-dire que quand ils étaient en face de la police et quand ils étaient condamnés, ils criaient pas à l'injustice. Aujourd'hui, on a une espèce de culture de la victimisation qui fait que on peut balancer des pavés sur un policier, on peut insulter un policier, on peut mal se comporter face à un policier, se plaindre d'avoir reçu le coup de matraque d'un CRS, mais il faut comprendre que la police, c'est un corps essentiel à la survie d'une société, on en a besoin.
Eh ben merci beaucoup Majid pour ce témoignage là encore à 13h27. C'est vrai qu'on s'interroge souvent le matin avec Laurent Tessier, mais aussi avec Philippe Rey, avec Jacques Esnoux, sur les sujets qui vont le plus intéresser les auditeurs. Et on a toujours une discussion entre nous. Donc ce matin, on parlait de la magie de Noël, on parlait du service militaire, on parlait des navigateurs, d'Anne Sylvestre, pas encore, puisque Anne Sylvestre, son décès est arrivé au cours de l'émission. Et manifestement, c'est la police qui vous fait réagir aujourd'hui. Et vraiment, ce sont des appels en masse. Donc c'est toujours un révélateur, forcément, de l'intérêt qu'ont ces sujets-là et l'intérêt de la police pour les auditeurs. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Nous sommes le 1er décembre et on bascule dans le calendrier de l'Avent. On est à J-25 et certains adorent tellement Noël que tous les jours, c'est un peu la fête. Et tous les jours, avec Laurent Tessier, à 13h30,
pile,
nous parlerons d'un Noël d'un auditeur.
Votre Noël, voilà, venez nous raconter tous les jours à cette heure-là dans l'émission votre meilleur souvenir de Noël, la dinde restée trop longtemps dans le four, la chanson que vous répétez en boucle pendant l'ouverture des huîtres, et en plus, calendrier de l'Avent oblige, vous recevrez le contenu de la petite fenêtre du jour grâce au désormais célèbre Monsieur Cadeau, Greg Caradoni. Elisabeth habite la Moselle, elle va nous faire voyager ce midi. Oublions le froid en ce moment, allons à la plage, sortons de l'armoire, le short de bain, les lunettes de soleil, la crème solaire.
Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur le vol 777 à destination de Papeete, Tahiti.
Si je devais me rappeler un meilleur souvenir, je dirais que c'est en décembre 85. C'était notre premier Noël à Tahiti, plage, cocotier, etc. En paréo, il faisait vachement chaud, 30 degrés.
Ah oui, on s'imagine très bien à Tahiti. Mais alors, comment fait-on pour le sapin de Noël ?
Mon beau sapin, roi des forêts.
L'ado que j'étais a fait la misère à son père parce qu'à 3 jours du réveillon, on n'avait toujours pas notre sapin. Ça nous tenait à cœur. Mon papa a remué ciel et terre et a fini par amener à la maison un pain caraïbe. Bon, c'est pas traditionnel, mais on a pu y accrocher boules et guirlandes et à mon grand bonheur.
Bois et guérets sont dépouillés.
Objectif atteint, et comme on est à Tahiti, il faut que le Père Noël s'adapte, il laisse son traîneau au garage et ses rênes, il se déplace différemment pour faire rapidement sa tournée.
Quand j'étais toute petite, j'avais 5 ans, c'était l'arrivée du Père Noël en bateau, pour moi ce serait le deuxième meilleur souvenir.
Noël, ce sont aussi des chansons, on adore les écouter en boucle, elles nous le font tellement de bien, voici le choix d'Elisabeth.
Moi, je suis complètement accro au Noël américain. Ces appartements aux couleurs de Noël, chocolat chaud, etc. Et...
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful.
Playlist de Noël et ma chanson préférée, c'est Let It Snow de Dean Martin.
Let it snow, let it snow, let it snow.
Et dites-nous aussi sur la page Facebook des Oitans en la parole, votre coup de cœur et Noël, ce sont les cadeaux au pied du sapin, la patience de voir ce qu'a déposé le Père Noël. Elisabeth a une demande.
Je pense avoir été sage cette année, donc si le Père Noël m'écoute, j'aimerais juste pouvoir passer un Noël en famille avec ma sœur, parce que ça fait quand même depuis 1995 que c'est plus possible. C'est toujours moi chez mes parents, elle l'année d'après, mais jamais ensemble. Donc c'est ça moi qui me manque. Moi je demande juste d'avoir ça comme cadeau une année. Tiens.
Et c'est tout ce que l'on vous souhaite, Elisabeth. Et en attendant, c'est l'heure d'ouvrir Pascal pour la première fenêtre, celle du 1er décembre, avec Monsieur Cadeau, Greg Caradoni.
Monsieur Cadeau, Greg Caradoni, c'est-à-dire que tous les jours, on aura un cadeau avec vous,
bien sûr,
Greg. Comme l'année dernière, c'est-à-dire que c'est une chanson que vous allez nous proposer chaque année, c'est ça ?
Alors non, ce sera un vrai cadeau qu'on va offrir à nos auditeurs.
Ah oui !
On peut mettre une chanson supplémentaire si vous
non,
voulez.
Non, la chanson, ce sera tout à l'heure, parce qu'on ne va pas faire que chanter.
Regardez ce que j'ai apporté.
Je ne vois pas, je vois rien. C'est quoi ?
Un calendrier de l'Avent, je vais ouvrir une case, ne bougez pas.
Ah bah ouvrez
attendez,
la
attendez.
Case.
Attendez.
Il y a une production désormais.
Incroyable.
Une production qui est tout
vous savez ce que c'est ? C'est une boîte de méditation que va remporter notre auditeur aujourd'hui.
Vraiment, c'est
pour
sympa.
S'endormir plus facilement, se détendre, bah dans cette période, c'est quand même vachement bien.
Non, mais moi, je trouve ça bien, une boîte
pour
de
méditation. Pour écouter une multitude de sons, et ça a été créé par des sophrologues, Pascal.
Bravo.
C'est un vrai cadeau,
alors,
un vrai super cadeau.
Qui gagne ça ?
Eh bien, l'auditeur qui vient de passer sur l'antenne.
Elisabeth.
Eh bien,
Elisabeth remporte
eh bien,
la boîte.
Elisabeth, bravo.
Méditation.
Bravo, Elisabeth. 13h34 sur RTL.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Vous allez pouvoir réagir au décès d'Anne Sylvestre et Steven Bellery est avec nous. C'est intéressant parce qu'on dit chanteuse pour enfants, mais c'est bien plus que ça.
C'est bien plus que ça parce qu'Anne Sylvestre a eu une double carrière d'une certaine manière. À la fois les Fabulettes, ses chansons pour enfants, mais dans lesquelles elle a instillé tout un nombre de valeurs qui lui tenaient à cœur. Et cette partie très féministe de sa carrière et de ses chansons. Elle a écrit plus de 600 chansons en 60 années de carrière et elle a été très engagée dès le début. D'abord, Anne Sylvestre est une des premières chanteuses avec Barbara à écrire et interpréter ses propres chansons dès le début des années 60 et ensuite à être une chanteuse engagée, comme on le dit. Elle s'était même amusée avec un titre qui s'appelait Chanson dégagée. Elle a chanté le viol dans Douce Maison, l'IVG 2 ans avant la loi Veil dans Non, tu n'as pas de nom, la misère dans Pas difficile, l'homosexualité dans Xavier ou dans Gay Marions-nous. Elle a souvent été presque censurée, même si on n'osait pas le dire, des radios généralistes. Elle a chanté l'environnement, beaucoup, le nucléaire, la marée noire de la Moko Cadiz, le besoin de vivre au vert, des chansons qu'elle interprétait toujours avec une vigueur incroyable, une théâtralité. D'ailleurs, elle chantait avec un micro-casque sur scène. Elle avait besoin de vivre ses chansons, Anne Sylvestre.
La Moko Cadiz, ça doit être en 77 ou 78, parce qu'elle est bretonne.
Elle est originaire de Lyon.
Oui, mais...
Elle avait des racines. Oui,
ouais, j'avais l'impression qu'elle était... elle a souvent parlé, en tout cas, de la Bretagne. Et effectivement, notamment la ville de Porçal, je ne sais pas si les plus anciens s'en souviennent, avait été en très grande difficulté. Alors, Françoise sera avec nous dans une seconde pour parler d'Anne Sylvestre. Et Steven pourra évidemment échanger avec Françoise après une page de publicité, peut-être. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent.
Il y a une couleur Barbara dans cette intonation et dans ces.
C'est la génération.
Cette ambiance.
Très épurée où le texte était très important.
Alors Françoise est avec nous, qui habite Nantes et qui connaissait Anne Sylvestre. Bonjour Françoise.
Bonjour Pascal.
Vous l'aviez rencontrée à quelle occasion ?
Eh bien écoutez, j'étais professeure à Chablis. Avouez qu'il y a des nominations pires que celle-ci. Mmh. Et donc elle avait une maison de campagne dans la campagne, hein, justement, près de Chablis. Et elle venait faire son marché le dimanche matin à Chablis. Et alors évidemment, moi qui étais une grande amoureuse de cette personne, la première fois que je l'ai vue, je lui ai sauté dessus. Et elle m'a fait plusieurs dédicaces sur des vinyles que j'ai toujours. D'ailleurs, je me demande dans quel état ils sont, parce qu'ils sont tellement passés chez moi que, voilà, Anne Sylvestre, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup accompagnée. La personne qui est passée avant moi a tout dit, hein. Donc une prosodie très simple, apparemment très simple, mais avec des mots très pointus, une économie de mots, mais très chargée en sens et en émotion. Et lorsque mes élèves faisaient, par exemple, des rédactions en cours, eh bien, je la passais en fond sonore, et j'avoue que j'ai converti pas mal de mes élèves, qui sont vraiment maintenant de grands enfants, bien sûr, de grands adultes. Et si elles m'entendent, je suis sûre qu'ils pensent à moi, à leur prof, Françoise.
Ben merci, Françoise. Steven, pourquoi elle passait si peu à la télévision ?
Bien sûr, vous savez bien qu'à la télévision, passent beaucoup de gens parfaitement inutiles, mais oui. Mais
non, là, vous êtes dur, parce que Barbara, Brel, Brassens ont eu... Bon. Je ne sais pas, par exemple, est-ce qu'elle a eu un grand échiquier avec Jacques Chancel, qui était généralement une vitrine à l'époque ?
Probablement, mais c'est vrai que le succès de ses chansons pour enfants et de ses fabulettes a un petit peu effacé l'autre partie de son répertoire. Elle a peut-être été un petit peu cataloguée simple chanteuse pour enfants, alors que il y avait, voilà, comme le dit cette auditrice qui est avec nous, qui avait derrière ses chansons beaucoup de valeurs qu'elle instillait. Et elle me disait, Anne Sylvestre, il y a encore moins d'un an, qu'elle devait beaucoup aux Fabulettes, déjà parce qu'elle a bien gagné sa vie grâce à cela, mais qu'elle a permis l'éducation de toute une génération d'enfants qui sont devenus des adultes et certains ont continué à aller la voir sur scène.
Liliane est là. Bonjour Liliane, vous habitez en Vendée et
oui,
c'est la première chanteuse que vous avez vue sur scène.
C'est ça, c'est exactement ça. Et là, je viens d'avoir un gros choc émotionnel parce que ça m'a fait revivre justement cette période où je découvrais une chanteuse sur scène. Je n'avais entendu que des fabulettes, je pense, à l'époque. Et là, j'entendais un répertoire pour adultes. Et je suis sous le choc. J'ai toujours aimé cette chanteuse après J'en ai fait... j'ai éduqué aussi mes enfants avec ces chansons. Je suis assez émue. Hein, là, j'ai vraiment eu un choc tout à l'heure en entendant ça.
Ben, je comprends, Liliane, si effectivement vous avez une histoire comme on a parfois avec un artiste.
Oui.
D'autant que vous avez tous ces disques. C'est combien de disques, Anne-Sylvestre, Liliane?
Ah, je ne sais pas. Je les ai tous au fur et à mesure. Le dernier, je crois que c'est le Jubilé. Après, j'étais sur son site. Je pouvais correspondre avec quelqu'un qui s'occupait d'elle, etc. Et puis c'est toujours là, je l'écoute. La dernière fois que j'ai été surprise, et vraiment très 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 agréablement surprise, c'est en regardant le spectacle d'Alex Lutz. J'étais avec un de mes fils, et à la fin de ce spectacle, quand il tourne avec son cheval, il y a la voix d'Anne Sylvestre qui chante... les gens qui doutent.
Qu'on vient d'entendre à l'instant, Steven.
Oui, c'est vrai que jusqu'au bout, Anne Sylvestre a travaillé. Je l'ai rencontrée donc en septembre 2019, il y a un petit peu plus d'un an. Elle s'apprêtait à monter sur la scène de la Cigale à Paris pour 4 concerts. Elle a donné d'autres concerts en France cette année. Et elle travaillait sur sa toile cirée, chez elle, à l'encre, sur de nouvelles chansons. Elle avait déjà écrit 5 titres qui devaient former un nouveau disque qui devait sortir dans les prochains mois. Et elle nous avait confié une chanson en avant-première qui s'appelle « Avec toi le déluge » et qu'on peut écouter ce midi.
Avec toi le déluge, ça ne s'arrête pas, le ciel est en colère et la chambre en dirait le port de Saint-Nazaire. On peut en faisant vite atteindre le grenier, avec un peu de chance trouver le canoë. Il passera sans doute à travers la lucarne.
C'est une couleur musicale également qui nous vient des années 60-70, il faut le dire.
Exactement,
ça se voit dans le texte, mais aussi dans la musique.
Dans sa manière de déclamer,
oui,
elle déclamait les mots, ouais. Chaque mot était important, et elle avait ce plaisir de la chanson. Elle disait « J'ai toujours pensé qu'on faisait des chansons pour ne pas avoir à expliquer ». C'était très important pour elle qu'il y ait une histoire dans une chanson, qui ait un début, un milieu et une fin, une chute. Ça, c'était fondamental pour Anne Sylvestre.
Il y a un côté Gréco, il y a un côté Barbara, hein, évidemment, ces gens qui sont quasiment de la même génération. Merci beaucoup, Steven, et merci vraiment à Liliane, comme à Françoise, d'avoir rendu hommage à Anne Sylvestre aujourd'hui. Elle habitait dans le 20e arrondissement.
Oui, une maison sans jardin parce qu'elle adorait chanter l'environnement, mais elle détestait la campagne, elle détestait les jardins, elle avait besoin du confort de la ville.
Bien, merci, vraiment, merci beaucoup. Il est 13h45, on va poursuivre avec d'autres sujets, la magie de Noël, pourquoi pas encore la police, on parlera du service militaire dans quelques instants. Greg Caro-Denis, vous n'étiez pas... Vous n'avez pas pu faire votre service militaire, il a été...
J'ai fait ce qu'on appelle la journée d'appel à la défense, journée. Oui.
Parce que nous sommes partis dans les Aurès.
Ah, c'est une autre époque.
Non, je blague. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Je crois que l'année dernière, nous avions égrené jusqu'au 24 les chansons de Noël. Comme on est le 1er décembre, c'est un peu notre calendrier de l'Avent à nous.
Exactement.
Et, chaque jour, je demandais à Greg Caro-Denis la chanson qu'il avait choisie. Donc vous avez pris la playlist de l'année dernière et vous n'allez pas proposer la même que cette année, j'espère.
Non, sauf peut-être une.
Ah, allons-y. Votre première chanson.
Ce sera pour vous, celle-là. Je savais que ça vous ferait plaisir.
Qui est-ce qui chantait ça?
C'était Robert Miras.
C'est formidable cette chanson. Elle nous vient de la nuit des temps, des années 70, là encore. Très jolie chanson. Donc ça, c'est votre première chanson.
Ce sera la première de notre calendrier de l'Avent des chansons de Noël.
Alors, Christiane est avec nous, qui habite la Loire-Atlantique. Bonjour Christiane, où vous êtes en Loire-Atlantique?
Je suis là, je m'appelle...
Ah ben, j'ai l'impression que la liaison n'est pas très bonne.
Ah. Allô.
Oui, Christiane, vous habitez où en Loire-Atlantique?
J'habite un petit village qui s'appelle Plessé, tout près de Nantes.
Plessé. Bon, la liaison n'est pas excellente, malheureusement. Mais est-ce que vous êtes sensible à la magie de Noël, Christiane?
Seulement, je suis sensible, mais je pense que c'est un préparé.
Non, malheureusement, la liaison n'est pas bonne. Alors, c'est un petit peu haché. Donc, on va essayer de rétablir cela. Et en attendant, on va peut-être encore parler de la police, puisqu'Élodie est là. Élodie, bonjour.
Bonjour.
Et vous avez peut-être une proposition à faire pour que les choses aillent mieux entre la population et la police.
Bah, en tout cas, je pense pour qu'il y ait moins de malentendus. Parce que, bon, voilà, j'avoue, moi, j'écoute pas trop les infos, parce que les machins négatifs en boucle, à force, je préfère regarder mes oiseaux qui mangent dans les gamelles, hein. C'est plus positif. Mais par contre, je pense que, effectivement, oui, si on mettait les caméras dans les rues, au les mettre sur quelqu'un, il y aurait peut-être déjà moins de gens pour dire que, ouais, ils ont pas fait ci, ou, parce que c'est sûr, un bug informatique, on ne va pas chercher à dire, tiens, peut-être qu'il n'y a plus de batterie, ou peut-être qu'il n'y a pas Internet, enfin, je sais pas comment ça marche, mais il y aura, ce sera forcément, ah oh, bah non, hein, il savait qu'il allait faire ça, donc il a coupé. Vous voyez?
Je comprends à demi-mot ce que vous voulez dire, mais des caméras dans la rue, il y en a déjà. En fait, les caméras piétons, c'est pour être plus précis dans la retranscription de la rencontre ou de l'échange qu'il y a eu. Parce que une caméra qui est dans la rue, elle ne peut pas, par définition, tout entendre et tout voir. Mais il y en a déjà des, mais elles sont assez larges. Vous voyez comment c'est fait, les caméras, les.
Bah, je vois un petit peu dans les séries télévisées, mais c'est vrai que moi, tout ce qui est caméra, etc., je connais pas trop. C'est pour ça le
bord. La caméra piéton, elle est vraiment, elle enregistre tout, et puis elle est très précise puisque elle enregistre à un mètre la personne que vous rencontrez. C'est pour ça qu'après tout est filmé. Donc et j'ai entendu un reportage ce matin sur l'antenne d'RTL. C'est assez intéressant parce que dans ces cas-là, c'est dissuasif. Ça apaise la relation. Parce que celui qui est interpellé sait qu'il est filmé. Donc il sait qu'il ne peut pas se conduire n'importe comment. C'est pour ça que moi je trouve que c'est très très bien en fait de tout filmer. Et on voit qui agresse qui.
Tout filmé, je suis d'accord.
On voit qui agresse qui. Entre les policiers et la population.
Oui, mais après tout filmer, moi je suis totalement d'accord avec vous. Mm. Ça au contraire, moi ça fait je sais pas combien de temps que je le dis, même quand moi je suis dans un village, il y a des fois des délinquants, etc. S'il y avait des caméras, il y aurait peut-être moins tout ça. Donc moi sur les caméras, je suis totalement d'accord. Je pense qu'il faut mettre les caméras de façon à pouvoir filmer tout au mieux, etc. Donc effectivement, s'il est embarqué, c'est mieux que c'est en haut. Très bien, moi c'est ce que je pense qu'il faut le mieux pour eux. Mais c'est ce que je disais aussi sur mon commentaire, je pense qu'il faut arrêter de passer en boucle tout ce qui est négatif.
Parce alors ça, c'est un autre sujet. C'est effectivement une antienne, là encore. Les journalistes ne parlent que des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Alors, c'est pas tout à fait vrai pour tout vous dire, parce que très souvent, justement, si vous écoutez les journaux du matin, le journal de Christelle Robière et tous les journaux d'RTL, on essaye, la rédaction essaye toujours de valoriser parfois une belle histoire, une information positive, un sujet qui fait plaisir et qui, malgré ça, a quand même une information à délivrer, hein, bien sûr, c'est de l'actualité. Mais on essaye. Mais là où vous avez raison, c'est que ce monde, on est des miroirs du monde. Et le monde aujourd'hui, il n'est pas très, très joyeux, Élodie. Merci en tout cas. Vous êtes avec des oiseaux vous êtes avec
oui,
des
moi, bah, moi, je suis à la campagne, donc j'ai mis des bouteilles de lait pour mettre un manger d'oiseaux et j'aime bien la grande. Juste, je voudrais juste, si j'ai juste 30 secondes.
Je vous en prie.
Ce que j'expliquais tout à l'heure à la dame qui m'a interrogée, je pense que tout ça, c'est une façon de voir les choses. Moi, je suis bénévole pour Bouchons d'Amour. Donc, je collecte les bouchons, je les trie, parce qu'il y a toujours des petites cochonneries dedans qu'on n'en voit pas au recyclage. Mais il y a des gens qui vont dire, oh, mais, alors, désolé pour le vocabulaire d'avance, hein. Mais, oh, mais ouais, t'as vu ce connard-là, il a quand même des piles, c'est pas normal, etc. Moi, non, moi, je préfère voir l'opposé. Effectivement, il y a un ou deux mecs qui mettent des piles, mais il y a combien de milliers ou de centaines de personnes qui donnent des bouchons pour la bonne cause? Ben, ça, c'est la même chose. Je pense qu'il faut mettre en avant le positif. Et pas toujours tourner sur le négatif.
Ben merci Élodie, merci beaucoup. On va essayer de reprendre la liaison avec Christiane, qu'on entendait mal tout à l'heure. Est-ce qu'on vous entend mieux, Christiane?
Oui, bonjour, rebonjour, vous m'entendez?
Et on vous entend mieux là. Donc la magie de Noël,
Eh bien écoutez, pour moi c'est hyper important. Je suis d'origine belge. En Belgique, le chemin vers Noël se prépare de jour en jour. Par exemple, aujourd'hui, on est le 1er décembre, vous l'avez dit. Pour les personnes en Belgique qui sont en lien avec la métallurgie, c'est la Saint-Éloi et donc ça se fête. Donc, mon père, par exemple, il était militaire, armurier. Eh bien aujourd'hui, mes parents ont 88 ans. Maman, elle va faire un bon petit repas parce qu'on fête la Saint-Éloi. Dimanche, c'est la Saint-Nicolas, la fête des enfants. Hein. Saint-Nicolas, c'est le patron des enfants et des écoliers. Et donc, dimanche matin, quand les petits-enfants belges vont se lever, il y aura des mandarines, des spéculoos, des knick-knacks, des spécialités belges pour la Saint-Nicolas. Lundi, quand ils arriveront à l'école, sur leur banc, sur leur pupitre, il y aura une mandarine, des spéculoos, etc. Je disais à votre standardiste, très sympathique d'ailleurs, je lui disais que, voilà, moi j'ai 3 ans et chaque année, je lui construis un calendrier de l'Avent. Cette année, le thème, c'est par exemple les quatre accords Toltec. Les quatre accords Toltec, c'est une philosophie de vie du temps des Toltec. Et donc, cette semaine,
c'est quoi, le premier accord.
Les Toltec, c'est une ancienne civilisation d'artistes, de philosophes. Et l'accord de cette semaine, de la première semaine, c'est par exemple que ma parole soit impeccable. Et donc, l'idée, c'est que toute cette semaine, on va faire attention, parce que je vais le faire en même temps qu'elle, attention à avoir une parole juste, ne pas être blessante, de dire les choses quand il faut les dire, mais de manière juste et vraie. Et parallèlement à ça, elle a une ou deux petites activités que je lui propose de faire pendant la semaine pour se booster, pour voir le positif de la vie, parce qu'en effet, vos auditeurs précédents ont bien relevé que la vie dans laquelle on est pour le moment, c'est difficile, et il vaut mieux voir le côté positif et le verre à moitié plein que le verre à moitié vide, parce que ça, on l'entend toute la journée, que le verre, il est à moitié vide. Voilà ce que je voulais
écoutez,
partager par rapport à Noël.
Vous nous aurez appris quelque chose. La culture Toltec est une culture méso-américaine qui s'est développée autour de Tula, leur capitale située près de... au Mexique, au début de
vous
la période...
Vous en connaissez plus que moi.
Ah ben non, j'en connais, ben je suis en train de lire.
Les quatre accords Toltec sont vraiment... C'est une philosophie de vie.
Bien sûr.
C'est
les maîtres bâtisseurs.
De se mettre un petit peu en projet par rapport à Noël, pour que Noël devienne autre chose qu'une fête où on est dans la frénésie des cadeaux, à se dépêcher dans la dernière semaine, à vite, vite être dans cette société de consommation et de s'ouvrir à autre chose. Que l'on croit, qu'on soit catholique ou non, je pense que ça n'a pas d'importance. C'est un chemin vers la lumière.
Bon, voilà. Écoutez, merci de ces paroles, chère Christiane. Et puis, vous savez déjà comment vous allez passer Noël ?
Avec mon petit mari qui vous écoute d'ailleurs, parce que c'est un fervent auditeur de votre émission, donc je l'embrasse, j'en profite, et puis on sera tous les deux tranquillou, je pense, chez nous.
Ah oui ?
Voilà.
Pas de famille, peut-être, cette année ?
Peut-être pas cette année, mais voilà, c'est comme ça, ce sera très bien comme ça. Comme ce sera très bien.
Bon, écoutez, merci beaucoup, Christiane, et puis bonne fête de l'Avent, bon calendrier
merci,
de l'Avent.
Merci, vous aussi, merci, et puis un joyeux Noël à tout le monde, malgré les événements gens voient le positif.
Je crois que c'est le premier joyeux Noël qui est donné, et on a le temps quand même, parce que c'est le 1er décembre. On va marquer donc une pause.
Voilà, ça commence. Au revoir, merci.
Merci beaucoup. Et notre question entre 14h et 14h30, c'est faut-il rétablir le service militaire ? À vos ordres.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Il est quasiment 14h. Le flash avec Olivier Bois.
Et d'abord la mort d'Anne Sylvestre. Elle avait 86 ans, à la fois chanteuse, féministe, engagée. Elle était aussi reconnue pour ses musiques pour enfants. Elle est l'auteur des Fabulettes. Laurent Marcy qui a recueilli la réaction de son ami Henri Dess.
Avant de faire sa carrière pour jeune public, on l'appelait la Brassens en jupon. Pour moi, quand j'ai commencé à chanter pour les enfants, c'était un exemple. Et elle avait beaucoup de succès avec ses disques. Je me disais, mon Dieu, je commence à écrire pour... ce public-là, est-ce que je vais arriver à faire aussi bien qu'elle, quoi. C'était un exemple pour moi. À l'époque, il n'y avait pas grand-chose pour ce jeune public. Et elle, c'était très fort. Elle transposait son talent d'auteur pour adulte en direction du jeune public. On se croisait de temps en temps et on était amis. C'est une femme volontaire. J'aurais voulu que le monde soit peut-être un peu différent. Elle était féministe, elle était engagée dans ces combats-là.
Voilà pour l'hommage d'Henri Dess après la mort d'Anne Sylvestre. L'Agence européenne du médicament a bien reçu la demande d'autorisation de Pfizer-BioNTech pour son vaccin. Il va y avoir un examen. L'autorité donnera sa réponse au plus tard le 29 décembre. Ensuite, les pays pourront démarrer les campagnes de vaccination. Rebondissement dans l'enquête sur la mort d'Adama Traoré en 2016 dans le Val d'Oise. L'expertise des médecins qui dédouanaient les gendarmes a été retoquée par la Cour d'appel de Paris pour une question de procédure. L'équipe de médecins n'avait pas correctement signifié et dit à quels experts elles avaient fait appel. Deux infos pratiques dans le sud-est. 3,5 millions de personnes étaient ce matin privées de télévision et de radio après l'incendie, peut-être volontaire, d'un local de télédiffusion de France à côté de Marseille. Et puis à Paris, les travaux sur la ligne du RER C vont prendre du temps. Une poutre de 400 tonnes s'est effondrée la nuit dernière sur les voies dans le 13e arrondissement. Il n'y a pas de blessés, mais le trafic est très largement perturbé. Et puis le quintet, à l'instant à Vincennes, l'arrivée provisoire. 6, 8, 11, 4 et 7.
On parle de Noël et je me demande si le pull d'Olivier Bois est un pull de Noël.
Ben oui, c'est un déjà. Pull de Noël, exactement.
Ah, donc vous avez commencé cette tradition.
L'esprit de Noël, l'esprit déjà. De Noël. Pénétrer, comment dire.
Mais bien sûr, cher ami, bravo donc pour ce pull, cher Olivier. 14h02, bravo.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Faut-il rétablir le service militaire? Et ça revient régulièrement. Et franchement, il n'y a aucune probabilité que le service militaire ne soit rétabli en France.
Là, vous engagez, hein?
Ah, oui, mais pas dans l'armée, en l'espèce. Non. Ah. Ça, c'est quoi? C'est la musique de...
Septième compagnie.
Mais allez, pourquoi pas? Après tout, si on nous avait dit en début d'année qu'on serait un jour confiné, on ne l'aurait pas cru. Ah, ça, donc, bien, tout mais... est toujours possible. Allez-y.
Garde à vous, soldats pro. La question, vous l'avez dit, du service militaire obligatoire est de nouveau sur la table. Dernière en date, Jean-Luc Mélenchon.
Dans une interview parue dimanche, Jean-Luc Mélenchon s'est dit « pour la conscription et une forme de service militaire ».
Jean-Luc Mélenchon propose un service citoyen d'une durée de 9 mois avant 25 ans, rémunéré au SMIC, au programme une formation militaire et des tâches d'intérêt général.
Il développe un argument en disant que, eh bien, il faut une défense populaire passive, que d'autres menaces et dangers que militaires nous menacent, donc comme le dérèglement climatique. Il évoque une contribution des jeunes Français. Et pourquoi pas dans la police? Cette proposition figurait déjà dans le programme Mélenchon 2017. Ses partisans sur les réseaux sociaux refusent d'utiliser le terme service militaire, mais c'est en partie le cas et ce n'est pas simple à mettre en place.
Voilà donc une idée qui revient, mais souvenez-vous, en 1996, Jacques Chirac annonce la fin du service militaire.
Je propose donc que le service national que nous connaissons aujourd'hui soit supprimé dès le 1er janvier 1997 et qu'il cède la place à des volontariats tout en maintenant le principe d'un rendez-vous entre la nation et sa jeunesse.
En 2001, les derniers appelés rendaient leur pactage plongé dans les archives de RTL quelques semaines avant la fin du service militaire.
Les armées, compte tenu de la professionnalisation, ont suffisamment de militaires. Alors ce soir, si c'est confirmé, beaucoup de jeunes vont certainement faire la fête. Exemple, François, 26 ans, qui attend cette mesure avec soulagement. Il est au micro de Laurent Marsic.
Ça devenait de plus en plus ridicule. D'autant plus que tout le monde sait qu'on n'y fait pas grand-chose et dans le contexte de chômage des jeunes, c'est peut-être plus intéressant de laisser des gens à leur boulot, dans leurs études, que d'aller franchement s'emmerder pendant 10 mois.
Et le service militaire obligatoire avait forcément un coût, rappel avec Jean-Mathieu Pernin.
Juste avant sa suspension, le service militaire de 10 mois coûtait 1,6 milliard d'euros par an au budget de la défense, soit 7 800 euros par appelé.
Alors nous posons de nouveau la question, faut-il rétablir le service militaire? Est-ce une bonne solution? Ce service serait-il efficace? Que disait Emmanuel Macron en 2017?
Je pense qu'aujourd'hui, imposer à toute une classe d'âge pendant 6 mois ou 1 an n'est pas une bonne idée. D'abord parce que ça n'est pas l'idée en effet que je me fais de l'engagement aujourd'hui. Parce qu'ensuite, compte tenu des contraintes de l'armée et du choix qui a été fait il y a 20 ans d'une armée de métier, ça n'est surtout pas réaliste.
Et nous sommes en ligne avec le général Bertrand Soublet, vice-président du mouvement Objectif France.
Bonjour Monsieur Soublet et merci d'être avec nous.
Bonjour Pascal Pro.
Le service militaire, ça a duré en France pendant 2 siècles, hein, de 1798 à 1997. Vous êtes partisan de le rétablir, ce service militaire?
Ben écoutez, je pense qu'il ne faut pas rétablir un service militaire tel qu'on l'a conçu et tel qu'on l'avait connu il y a maintenant plus de 25 ans. En revanche, un service national me paraît être une très bonne solution. Il ne peut pas être militaire, pourquoi ? D'abord parce qu'il n'y a pas de nécessité en termes de besoin, en termes de défense nationale. On a une armée professionnelle, donc il n'y a pas de raison de former des gens à faire la guerre. Et ensuite, les armées ne sont pas non plus dimensionnées aujourd'hui pour être le support d'un service militaire. Alors, quand je dis ça, ça ne veut pas dire pour autant que il ne puisse pas y avoir un service national avec un encadrement de la discipline de type militaire, et ça me paraît vraiment essentiel. Et ça peut se faire avec l'intervention de cadres réservistes. Vous savez, il y a des éducateurs aussi qui sont volontaires pour faire le choix. Je suis sûr qu'il y a plein de Français qui seraient tentés par cette expérience de venir encadrer de jeunes Français pour leur apprendre un certain nombre de choses, notamment les valeurs de la République.
Ben ça va être intéressant d'en parler parce qu'il y a peut-être des effets pervers qu'on n'avait pas vus lorsqu'on a stoppé le service militaire. Et notamment se vivre ensemble, c'est-à-dire que pendant un an, tout le monde était logé à la même enseigne et avec une autorité très grande, ce qui n'est pas le cas à l'école ou à l'université, une autorité militaire où on n'avait pas le droit, évidemment, de faire de faux pas. Et chacun, durant cette année-là, était obligé de passer sous les fourches codines d'une autorité, ce qui n'arrive pas si souvent aujourd'hui. Donc c'est peut-être un des effets pervers, et on va en parler avec les auditeurs dans une seconde. Mon général, on dit mon général, hein, toujours.
Oui, vous dites ce que vous voulez. C'est pas un sujet. Pour moi, je suis pas très formaliste, vous savez.
Bon, bah écoutez, je vais dire mon général alors, ou Monsieur Bertrand Soublet. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Faut-il rétablir le service militaire obligatoire? Le général Bertrand Soublet, qui est vice-président du mouvement Objectif France, est avec nous. Et Charles également, qui est enseignant à Montpellier. Bonjour Charles.
Oui, bonjour.
Votre sentiment?
Le sentiment, bah écoutez, déjà, dire que c'est sûrement de la science-fiction, effectivement, hein, que le rétablissement du service militaire. Mais j'ai d'abord une petite remarque à faire par rapport à la France insoumise, parce que, bon, ils sont pas une contradiction de presse, ça tout le monde le sait. Mais c'est vrai que lorsque ils parlent de venir grossir en gros les effectifs de la police, etc. Bon, c'est un peu compliqué à entendre, parce que bon, ben certains membres de la France insoumise bon passent leur temps à dire que la police est une machine à bavure, et bon, enfin, je trouve ça un peu. J'ai du mal à les suivre, en fait, en termes de raisonnement. Pour ce qui est du service militaire, en tous les cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que le service militaire, c'est vrai que ça donne probablement un cadre, une rigueur, un respect de l'autorité. Et malheureusement, on assiste quand même à une déliquescence de tout ça. Je pense que ça commence dans l'éducation. Il y a une génération maintenant de parents, ça fait longtemps que ça dure, mais les nouvelles générations de parents sont plus les copains de leurs enfants que leurs parents. Donc ils sont incapables de mettre un cadre, ils sont incapables donc ils cèdent absolument à tout. Et puis ça fait des dégâts à tous les niveaux, c'est-à-dire que lorsque ces enfants se retrouvent dans des établissements scolaires, eh ben il y a un refus d'autorité qui commence là déjà, dès le plus jeune âge. C'est-à-dire, c'est des enfants rois, donc l'enfant roi ne supporte pas la moindre autorité, la moindre règle, conforté par les parents d'ailleurs, qui appuient leur enfant, qui les défendent et qui estiment qu'une institution comme un établissement scolaire n'a pas le droit de punir leur enfant. Donc ça commence là. Alors évidemment, après, ben, plus tard, on retrouve un sentiment de défiance vis-à-vis de la police, vis-à-vis de toutes les représentations de l'autorité. Et en fait, on habitue les gens à renverser la table, à ne pas se soumettre, à ne pas obtempérer. Et le problème, c'est que ça nous conduit petit à petit vers une forme de société anomique, c'est-à-dire avec une absence de règles. Voilà. Et c'est vrai que
c'est intéressant
anarchie...
ce que vous dites, Charles, parce que en fait, et beaucoup de gens pensent comme vous, et le général Soublet va pouvoir répondre, beaucoup de gens aimeraient le retour du service militaire, non pas tant parce qu'il faut défendre la patrie, qui n'est pas forcément en danger, mais pour pouvoir recréer ce lien, et je le disais tout à l'heure, on n'avait pas vu les effets pervers, et pour pouvoir mettre au pas, entre guillemets, une génération de jeunes gens qui n'ont plus de repères et qui ont un rapport distant avec l'autorité. C'est assez drôle d'entendre cela, mon général.
Non, mais je suis tout à fait d'accord. J'ajouterai aucun mot supplémentaire à ce qu'a dit Charles, votre auditeur, parce que c'est exactement ça. Aujourd'hui, la question du service, moi je dis pas militaire, mais national, c'est pas une question de défense nationale, c'est une question, vous l'avez dit, Pascal Pro, de cohésion nationale. La vérité, c'est ça. C'est que l'avantage qu'avait le service national autrefois, avec tous les défauts qu'il avait, bien entendu, c'était que on mettait ensemble des gens qui, de toute façon, dans la vie, ne se seraient jamais rencontrés.
Mais oui.
Et ça permettait de faire ce brassage-là. Et puis, pour certaines personnes qui avaient une instruction, qui avaient un certain niveau, de se rendre compte que parfois, cela n'est pas partagé par tout le monde, et que dans notre pays, il y a de grandes disparités, à la fois dans l'éducation, dans la manière de voir les choses, et y compris dans l'instruction, parce que vous savez, il y a encore des analphabètes dans notre pays. Donc, le service national avait cette vertu de mettre ensemble toutes ces personnes-là, et le service national permettait aussi à ceux qui démarraient avec des handicaps dans la vie, de pouvoir faire en sorte que ces handicaps soient pas trop importants. On leur apprenait à lire, parfois ils passaient le permis de conduire, et donc on leur mettait plusieurs atouts pour réussir plus facilement dans la vie alors qu'ils avaient démarré très mal. Et ça, aujourd'hui, nous ne l'avons plus. Alors évidemment, je ne parle pas de toutes les questions de règles de vie que les jeunes n'ont plus, la ponctualité, la politesse, le respect de l'autorité, mais Charles l'a déjà dit, tout ça, c'est extrêmement important. Et je crois qu'un service national bien conçu permettrait à tous ceux qui ne disposent pas de ces repères, eh bien, de les rappeler ou de les leur inculquer, avec surtout le sens de l'intérêt général et des valeurs républicaines qu'aujourd'hui, malheureusement, on foule aux pieds tous les jours.
Sauf que dans le cadre du service militaire, ces jeunes-là passaient sous une autre autorité à l'époque et ça ne serait plus le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que vous rencontreriez sans doute les mêmes soucis si vous vouliez faire un service civique qui ne soit pas militaire, ça serait encadré d'une manière différente. Avant, vous étiez sous l'autorité d'un adjudant et puis vous ne pouviez pas répondre et puis vous terminiez au trou si vous n'étiez pas d'accord, si vous contestiez. Bah oui, c'est ça la réalité.
L'autorité. Oui, mais vous avez une présentation de l'autorité qui me paraît un peu brutale. moi qui ai commandé des dizaines de milliers de personnes pendant toute ma carrière, franchement, je n'ai pas cette conception-là de l'autorité. Mais l'autorité, elle peut être aussi bienveillante. Et on peut aujourd'hui faire obéir des gens en n'étant pas brutal et en expliquant les choses comme il faut. Alors, c'est vrai qu'à un moment donné, la discussion, notamment dans le milieu militaire, a un terme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours tout discuter.
Mais on ne discutait pas, c'est ce que je voulais vous dire. Moi, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais on ne discutait pas. Et aujourd'hui, je ne vois pas comment ce serait possible, sauf si on passe de nouveau sous le régime militaire. Hein, auquel cas, bon, c'est les militaires qui décident. Mais dans un service civique, j'ai peur qu'on retrouve les mêmes problèmes d'autorité qu'un prof avec sa classe. C'est ça que je veux dire.
Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que vous savez, vous avez un certain nombre d'expériences aujourd'hui en cours, notamment les EPID, où l'autorité, ce sont des jeunes volontaires là, mais où l'autorité s'applique parfois de manière, j'allais dire, ferme, très ferme. Et tous ceux qui en sortent, voient tout ça d'un œil très très positif. Donc l'autorité, y compris chez des gens qui ne l'ont pas connue, qui sont en rupture de ban avec la société, l'autorité peut être aussi acceptée, même si parfois elle est très contraignante. Mais de toute façon, la contrainte fait partie de la vie. On ne peut pas dire aux jeunes qu'on construit une vie dans le consensus permanent. Le conflit existe, il faut apprendre à le gérer, il faut apprendre à être confronté au conflit, et on n'est pas obligé de sortir du conflit dans la brutalité. C'est ça, moi, que je ne comprends pas aujourd'hui dans notre société.
Nouvelle pause.
Tout le monde croit que la brutalité est une solution. Eh bien non.
Nouvelle pause, mon général, et on va continuer la discussion. Est-ce que vous disiez tellement vrai? C'est-à-dire que ça permettait un brassage. Parce que la vérité, c'est que les gens ne se brassent pas. Les bourgeois vont à l'école dans des écoles de bourgeois. Ceux qui sont défavorisés sont souvent dans des écoles où ils retrouvent des gens qui sont défavorisés. Or, le service militaire permettait dans une même chambrée d'avoir un aristocrate, quelqu'un qui arrivait d'un milieu défavorisé, un intellectuel, un littéraire, un analphabète, etc. Et tous ces gens-là apprenez à vivre ensemble. Et c'est souvent les témoignages des anciens qui nous racontent ça. Ce brassage-là, aujourd'hui, n'existe plus. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Et le général Bertrand Soublet est toujours avec nous pour évoquer ce service militaire. Nous sommes avec Gilles. Bonjour Gilles, oui. Qui habite dans l'Essonne. Pour ou contre?
Bonjour.
Le rétablissement.
Alors, moi, totalement contre. Alors déjà, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit votre auditeur précédent quand il parlait d'enfants rois. Moi, j'aimerais poser juste une question, qui les a créés, ces enfants rois? Moi, j'ai deux garçons. Je vous garantis que le rapport avec l'autorité, il existe. Il n'a pas toujours été très simple. Moi, je suis issu d'un milieu ouvrier, hein, je suis du 93. Hein. Je pense que c'est l'éducation aussi à l'époque qui a créé ces enfants rois. Fallait rien dire aux enfants, fallait pas les réprimander. Enfin, ça, c'est une aparté. Alors, moi, comme je vous disais, je suis contre le rétablissement du service militaire. Moi, je suis un vieux, hein, j'ai 56 balais, je suis de la 686 au niveau du service militaire, et je l'ai fait en Allemagne. Déjà, pour rebondir sur ce qu'a dit le général, bonjour mon général, moi effectivement, j'ai
connu ce brassage avec des gens effectivement qui étaient analphabètes. C'est pas l'armée qui leur a appris à lire et à écrire, loin de là. On nous a fait marcher au pas, on nous a fait chanter des jolies chansons, mais à aucun moment on a éduqué ces appelés. Et ensuite, d'autant plus témoin que moi j'étais déjà technicien de laboratoire, j'avais déjà mon BTS en poche. J'ai proposé d'aider à ces jeunes à en leur apprenant à lire, à écrire, à compter. On m'a dit que j'étais pas là pour ça et on m'a juste demandé de marcher au pas. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, ces gamins qui avaient par contre pas forcément un haut niveau de lecture et d'écriture, mais qui avaient un CAP, qui avaient un métier en poche, eh ben ils le retrouvaient pas en sortant ce métier, parce que entre temps leur employeur, qui avait peut-être que comme employé, eh ben est obligé d'embaucher quelqu'un d'autre. Et ne les reprenez pas.
Donc vous avez un an. Vous avez le sentiment d'avoir perdu un an.
D'une part, j'ai perdu un an. Moi, j'ai eu la chance que, étant fonctionnaire déjà à l'époque, puisque je travaillais pour la PHP, la PHP était obligée de me reprendre, pas à mon poste, mais à un deuxième poste, enfin un autre poste, pardon. Mais par contre, oui, j'ai fait en plus mon boulot de technicien de laboratoire pour une solde, ce qui était quand même largement en dessous de ce que j'étais payé déjà à la PHP à l'époque. Bon. Mais ça, c'est pas.
Donc moi, rien de positif. Dramatique. Vous ne retirez rien de positif de cette année-là que vous avez passé. C'est rien.
Alors, de me rendre compte qu'effectivement, il y avait beaucoup plus d'analphabétisme que ce que je pensais, puisque c'est effectivement, comme disait le général, et là, il a raison, c'est pas une population avec laquelle je vivais tous les jours. Qu'est-ce qu'on a fait pour ces gamins, quoi?
Bah, rien. Le général Soublet vous répond.
Ah ben écoutez, je regrette que votre auditeur ait eu cette expérience, parce que je pense qu'elle est malheureuse et qu'elle n'est pas générale, parce que j'ai beaucoup de témoignages de personnes qui me disent heureusement qu'il y a eu le service national, parce qu'il m'a permis de combler un certain nombre de handicaps que j'avais. Il y en a certains qui ont appris à lire, il y en a certains qui ont appris à écrire, et j'ai des témoignages des centaines, voire des milliers de témoignages comme ça, et quand j'en parle autour de moi, j'ai exactement les mêmes retours. Donc je regrette pour vous qui n'avez pas eu ou qui n'avez pas connu cette expérience-là, mais on ne peut pas généraliser à partir d'un cas particulier. Or, vraiment, le service national avait cette vertu-là. Moi, j'ai moi-même été comme jeune lieutenant il y a très très longtemps au contact de ces jeunes-là qui ne savaient quasiment rien quand ils arrivaient. Au moins, ils partaient en sachant lire et écrire, en sachant compter, en ayant le permis de conduire. Et quand ils repartaient dans la vie civile, eh bien, ils avaient un métier, parce qu'avec le permis, ils pouvaient avoir un métier. Donc voilà, donc si vous voulez, on ne peut pas raisonner à partir de votre cas personnel. Et malheureusement, je comprends qu'il y a des expériences malheureuses. Mais le service national, franchement, est une chance, je pense, pour des jeunes qui démarrent très mal dans la vie. Et il faudrait pouvoir capitaliser là-dessus.
Un dernier mot de Laurent, peut-être, qui attend depuis un petit moment. Laurent, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs, mes devoirs, mon général. Pascal, si vous me permettez, je saluerai en vous l'ancien de Dien Bien Phu, puisque vous avez couru les ORS.
Non, mais c'était pour rire que j'ai dit ça.
Mais je le sais, je le sais.
Il y a un livre qui s'appelle « Avoir 20 ans dans les ORS ».
Voilà, oui, tout à fait, tout
voilà,
à fait.
Voilà, j'ai fait cette référence-là. Mais c'est vrai que moi, je fais partie d'une génération, je suis de 64, mon père est de 35, il est parti 24 mois ou 36 mois en Algérie.
En Algérie, tout à fait.
Et c'était incroyable. C'est-à-dire que quand il part en 56 ou 57 ou 58 et que les enfants de France quittaient le sol de France pour aller en Algérie, sans nouvelles, évidemment, où les parents étaient laissés pendant des mois, sans permission, sans nouvelles, avec de temps en temps une lettre, ça nous paraît un autre monde.
Nous sommes exactement de la même génération, Pascal, et le même ordre d'idée d'âge pour nos pères respectifs, et eux risquaient leur peau, en plus. On leur tirait réellement dessus à balles réelles. Donc, voilà. Donc, oui, je vais être un contre-exemple par rapport à l'auditeur précédent. J'étais sous-officier dans un régiment j'ai fait un régiment d'engagé, régiment d'appelé, hein. En régiment d'appelé, effectivement, le soir, quand j'étais bloqué en caserne, j'allais devant le tableau noir et puis j'essayais. Je me transformais en prof de français. Voilà. Bon. Mais alors, le souci donc, de ce service militaire, la question service militaire dans l'ancien système, c'est pas peut-on, enfin doit-on, c'est plutôt peut-on. Au niveau logistique, ça n'existe plus. Au niveau infrastructure, ça n'existe plus. Au niveau encadrement, on est tout juste. Donc utopie égale perte de temps, égale perte d'argent. Effectivement, il faut trouver une autre méthode. Alors l'autre méthode, le général tout à l'heure a abordé le sujet. Moi, de mon expérience personnelle, de gens qui n'ont pas demandé à venir et qui pour certains se retrouvent à 25 ou 26 ans, avec déjà une carrière professionnelle entamée, on n'arrive pas à tirer grand-chose. Et tout à l'heure, le général disait, sur la base du volontariat, oui.
Eh bien, ce sera votre dernier mot sur la base du volontariat, parce que Flavie Flamand est en régie, et vous savez que la ponctualité, mon général, est la base, une des bases, une des clés de l'autorité. Donc, nous n'avons pas à être en retard, et je vous remercie beaucoup, mon général.
C'est un plaisir.
Vraiment, c'était un plaisir.
Merci à vos auditeurs.
La publicité, Laurent Tessier dans une seconde, et Flavie Flamand ensuite.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL.